allume la science. La science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meure instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. C'est un nom poétique qui évoquerait presque les débuts d'une romance. J'ai des papillons dans le ventre. Oui, sauf que voilà, les jolis papillons peuvent se transformer en vilains papillomas dans l'utérus. Alors le papillomavirus fait partie de ce qu'on appelle les virus oncogènes, c'est-à-dire pouvant dans certains cas provoquer la survenue d'un cancer. Le virus de l'hépatite C par exemple peut aboutir à un cancer du foie, le virus Epstein-Barr que je ne connaissais pas, peut provoquer le lymphome de Burkitt. Le papillomavirus est quant à lui le virus le plus oncogène, impliqué dans les cancers du col de l'utérus essentiellement, mais aussi des cancers du vagin, de l'anus, du pénis ou encore oropharyngé. Depuis 2006 aux États-Unis et 2007 en France, un vaccin est disponible. Si la couverture vaccinale est longtemps restée très faible, surtout chez les garçons, les campagnes de vaccination au collège font progresser les chiffres et en juin 2024, le pourcentage de garçons nés en 2011 ayant reçu au moins une dose s'élevait à 48% et à 62% chez les filles. La couverture vaccinale pour la deuxième dose était estimée à 30% chez les garçons et 38% chez les filles. C'est mieux, mais peut encore mieux faire. Alors, à savoir quand même, dans 90% des cas, les infections par papillomavirus disparaîtront en moins de 2 ans. Et dans 10% des cas, l'infection persistera et deviendra alors potentiellement oncogène. Si les mécanismes de cette persistance restent mal connus, ceux de sa non-persistance, autrement dit de sa guérison, le sont tout autant. C'est pourquoi une équipe de chercheurs s'est penchée sur la dynamique de ces infections à papillomavirus non persistantes pour tenter d'en apprendre un peu plus. Vous l'avez compris, notre invité fait partie bien sûr de cette équipe. Il est chercheur au laboratoire Mivejec, titulaire d'une chaire à ExpoZoom et signe une publication dans la revue PLOS Biology intitulée « Dynamique virale et immunitaire des infections génitales à papillomavirus humain chez les jeunes femmes avec une résolution temporelle élevée ». On va éclaircir un petit peu tout ça avec nous, Nicolas Tessandier. Bonjour.
Bonjour à vous.
Alors vous êtes, vous la publiez à plusieurs cette publication et notamment c'est une double signature avec...
Avec mon collègue Battistelli.
Très bien, il fallait le citer. En seconde partie d'émission, nous commençons un nouveau cycle de reportages à l'IRES, l'Institut de Recherche pour l'Enseignement des Sciences. Pendant 3 semaines, nous allons partir à la rencontre des chercheurs et d'une chercheuse qui mettent leur science à hauteur d'élèves de collège, lycée et même de primaire pour susciter des vocations. Et nous commençons avec Philippe Munch, chercheur à Géosciences, qui nous parle d'évolution grâce à un rat géant de 300 kilos. En fin d'émission, Nathan Roure, chargé des relations presse à l'UM, nous rejoindra pour nous présenter l'événement du week-end, le retour du printemps et donc le retour de Primavera, la fête des plantes rares au Jardin des Plantes. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56...
Alors, on vient de le dire en introduction, dans votre étude, vous vous êtes intéressé non pas à la façon dont le papillomavirus provoque le cancer de l'utérus dans 10% des cas, mais plutôt au mécanisme de disparition, ou alors je ne sais pas si on peut parler de guérison, de cette infection qui se produit, on le rappelle, dans 90% des cas. Pourquoi cette partie-là plutôt que la partie oncogène, si on peut dire ?
C'est assez simple, parce qu'en fait, les papillomavirus, ou en tout cas ceux auxquels on s'est intéressé, ce sont des infections sexuellement transmissibles, qui s'attrape en fait relativement jeune, à peu près au moment des premières relations sexuelles. Et ce sont des infections qui sont très peu étudiées. Toute la recherche scientifique s'est plutôt intéressée à ces phases précancéreuses ou même cancéreuses, dans l'espoir de guérir. Mais nous, on a pensé, en fait, et c'était l'idée initialement de Samuel Alizon et Ignacio Bravo, il me semble bien, à la base...
On a reçu Ignacio Bravo aussi, oui.
Samuel Alizon aussi, d'ailleurs.
Qu'il fallait absolument étudier ces infections à partir du moment où elles se passaient pour pouvoir comprendre leur dynamique, leur association avec la réponse immunitaire, pour mieux comprendre comment éventuellement on pouvait développer des stratégies thérapeutiques ou ce genre de choses.
Alors ces virus, Lucie l'a dit en introduction, ils sont dits oncogènes. Est-ce qu'on sait globalement par quel processus une infection virale peut entraîner et provoquer un cancer ?
Alors, on a des éléments. Évidemment, si on savait tout, on pourrait probablement se prémunir de ces cancers. En fait, le papillomavirus, il va venir pirater le schéma de différenciation et de division de la cellule, notamment au niveau, elle va accélérer son rythme de division, il va venir aussi faire en sorte que cette cellule ait plus de ressources en faisant arriver plus d'angiogénèse, donc plus de vaisseaux sanguins, tout pour que la cellule puisse se diviser plus vite, plus fort, de façon plus différenciée et avoir plus de ressources.
Et ces cancers du col de l'utérus, justement, est-ce qu'ils sont forcément liés à une infection au papillomavirus ou est-ce qu'ils peuvent en être complètement indépendants ?
Alors, ils peuvent en être indépendants, mais les cancers du col de l'utérus, c'est une exception hein, dans la famille des cancers, puisqu'il me semble que c'est quasiment 90% des cancers du col de l'utérus pour qui on retrouve une origine ou une association par une infection virale par un papillomavirus.
Alors aujourd'hui, comment on le dépiste, ce papillomavirus ?
Alors on le dépiste régulièrement avec des prélèvements chez les jeunes femmes, c'est des frottis cervicaux. Il y a aussi des tests biologiques qui viennent nous confirmer la présence de papillomavirus à haut risque ou non. Et ces suivis sont faits à partir, là je n'ai pas exactement l'âge, mais de jeunes. Et puis après, en fonction de s'il y a détection ou pas de papillomavirus à haut risque ou de début des lésions, il y a des suivis rapprochés.
Alors, on l'a dit, c'est un virus sexuellement transmissible. On rappelle que protection ou pas, en fait, préservatif ou pas, il reste transmissible, c'est ça ?
Alors, je ne vais pas dire à cette antenne qu'il ne faut pas mettre de préservatif. Non,
non.
Mais effectivement, c'est un virus qui peut se transmettre malgré l'utilisation de préservatif.
Voilà, c'était juste pour dire, voilà, faites des dépistages, même si vous vous protégez bien. Et comment on le soigne ? Il disparaît tout seul ou alors il faut mettre en place une thérapeutique quand même ?
Alors, ce qu'on a dit, hein, quand on a dit qu'on n'étudiait pas beaucoup les phases asymptomatiques, donc les phases initiales de l'acquisition de papillomavirus, c'est qu'en fait, il y a une bonne partie des infections qui guérissent tout seuls. Il y a un ancien membre de l'équipe, Thomas Benetto, qui a montré que le hasard pouvait simplement aboutir à l'élimination d'une partie de ces infections. Maintenant, quand ces infections se maintiennent dans le temps ou vont vers des cancers, là, on le soigne avec des opérations chirurgicales, généralement, après des suivis rapprochés. Oui.
Alors, votre étude, elle se base sur le suivi d'une cohorte qui s'appelle PAPCLEAR de 189 femmes jeunes, donc âgées de 18 à 25 ans. Pourquoi est-ce que vous êtes limité à cette tranche d'âge dans la cohorte ?
Alors, l'idée vraiment, c'était de cette cohorte et de cette étude, c'était de s'intéresser aux phases asymptomatiques, donc bien avant la suspicion de cancer. Donc en fait, toutes les femmes que l'on a suivies, elles sont asymptomatiques, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas des patientes, ce sont des participantes. Pour moi, pour nous, la distinction est importante. Et pourquoi 18 à 25 ans, les débuts de l'activité sexuelle pour les premiers risques d'acquisition de ces infections sexuellement transmissibles? On aurait éventuellement voulu commencer un peu plus tôt, parce qu'on est bien conscient que les premières expériences sexuelles commencent avant 18 ans, mais là, au niveau éthique, c'était un petit peu trop compliqué. Donc,
voilà. Et du coup, ces 189 femmes-là, comment est-ce que vous avez fait pour les recruter ?
Alors en fait, on a recruté localement, hein, essentiellement sur Montpellier, en partie à l'université, et pour se donner un peu plus de chances de trouver des femmes infectées par des papillomavirus, notamment à haut risque, on a mis une condition d'inclusion où les femmes devaient avoir déclaré un nouveau partenaire dans la nouvelle année.
Donc vous les avez suivies sur cette étude pendant 4 ans, entre 2016 et 2020. Combien de fois vous les avez vues sur cette période-là ?
Alors ça dépendait des femmes, ça dépend aussi de leur statut au papillomavirus. On a eu des femmes qu'on a pu suivre qui sont restées tout le temps négatives pour les infections au papillomavirus qui nous intéressaient, et donc elles ont sorti d'études assez rapidement. Celles qui maintenaient une infection au papillomavirus longtemps dans le temps, on les a suivies pour certaines d'entre elles jusqu'à plus de 2 ans.
Alors au total, vous avez détecté 164 infections chez 76 femmes de votre échantillon. C'était une découverte pour moi. C'est très fréquent en fait, le papillomavirus.
C'est très très fréquent, oui. Alors il y en a un peu plus de 200 des papillomavirus. Au niveau de la sphère intime, il y en a moins. Mais je me trompe pas trop quand je dis qu'on est tous et toutes porteuses.
Alors une des premières choses que vous avez regardées, c'est ce qu'on appelle la cinétique virale. Autrement dit, l'évolution de la charge virale. Vous pouvez nous rappeler très rapidement ce que c'est qu'une charge virale ?
Oui, alors la charge virale pourrait être le sujet d'un débat entre spécialistes de papillomavirus, mais de façon imagée, la charge virale, c'est le nombre de copies génomiques de papillomavirus qu'il y a par cellule humaine. Donc est-ce qu'il y a 1, 2, 10, 20, 1000 papillomavirus dans une cellule humaine ?
Alors, vous avez montré que cette fameuse cinétique virale, elle pouvait être résumée en trois phases. D'abord, une courte phase de croissance, ensuite une longue phase de plateau, et pour la plupart d'entre elles, une courte phase de clairance au cours de laquelle elle se débarrasse du virus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus la durée de ces phases respectives ? Est-ce que vous avez pu le calculer, ça ?
Alors, oui. Alors, mais d'abord, je souhaiterais préciser qu'en fait, ce modèle en trois phases, une phase courte d'acquisition, un long plateau et une phase courte de clairance, d'élimination, c'était un modèle qu'on a utilisé dans cette étude, mais qui vient en fait d'un premier papier publié par Carmel Niamural et Samuel Alison, qui est un modèle de modélisation mécanistique. Donc en fait, avec voilà des maths, elles ont réussi à montrer que ce type de pattern, acquisition courte, long plateau et élimination courte, correspondait le mieux à tout ce qu'on savait de la théorie des infections papillomavirus. Et nous, dans cette étude, avec Battistelli notamment, on a pu constater que ce modèle, en fait, une fois qu'on avait acquis les données, correspondait plutôt bien, même très bien, à ce qu'on a pu quantifier lorsqu'on a étudié la charge virale à travers les différents prélèvements qu'on a pu faire. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi de l'étudier. Et je pense que c'est le moment aussi que je mentionne que ces suivis de charge virale, c'était énormément d'analyses, énormément de QPCR, et un petit coucou à Vanina, elle se reconnaîtra.
Et en moyenne, du coup, on est infecté pendant combien de temps par un HPV ?
Ah oui, alors ça j'ai oublié de répondre, désolé. Donc dans l'étude, ce qu'on arrive à montrer, et pour moi c'est un des points forts de ce papier, donc puisque ces infections asymptomatiques, elles ne sont que peu étudiées, là on a montré, et pour moi c'est un résultat majeur, c'était des infections qui durent en moyenne 16 mois.
Alors, vous montrez qu'il existe une variabilité de la charge virale d'un patient à l'autre. Pour savoir si cette variabilité, elle était due au virus ou à l'hôte, vous avez regardé le génotype des virus. Ça veut dire que vous les avez tous séquencés. Vanina est une surfemme.
Alors oui, mais non, on les a pas tous séquencés. Déjà, on a travaillé par QPCR, donc c'est-à-dire qu'on a pu quantifier les papillomavirus qui nous intéressaient. Comment on les a choisis ? On en a choisi 13. C'était énormément de travail, donc 189 femmes, des milliers d'échantillons pour 13 papillomavirus. On s'est intéressé essentiellement à ceux qui étaient au risque, donc les papillomavirus qui ont le plus de chances et qui sont le plus retrouvés dans les cancers du col de l'utérus, donc c'est HPV 16 et HPV 18, papillomavirus 16 et 18. Et après, on en a pris aussi d'autres qui sont aussi fréquemment retrouvés dans ces cancers. Et après, on a restreint la liste à 13 parce qu'il fallait quand même qu'on puisse travailler de façon raisonnable. Et on a dû aussi s'adapter avec ce qu'on pouvait effectivement quantifier. Il y en a qu'on aurait aimé inclure qu'on n'a pas pu pour des raisons techniques.
Ah oui, pardon, c'est à moi, j'enchaîne. Vous avez également observé la cinétique immunitaire, donc autrement dit les réponses immunitaires innées et adaptatives. On va faire un petit point sur la différence entre les deux avant d'aller plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on appelle inné et qu'est-ce qu'on appelle adaptatif ?
Alors, j'aimerais simplement commencer par répondre à la question en disant que c'est un schéma qui date un petit peu. Maintenant, bon, évidemment, c'est un petit peu plus flexible que ça, ces deux concepts, mais schématiquement, l'immunité adaptative, c'est une immunité que dans le grand public, on connaît le mieux. C'est celle qui, quand on est déjà infecté par un agent pathogène, lorsqu'on le revoit une seconde fois, il y a une mémoire immunitaire qui s'est mise en place avec la production d'anticorps. Et c'est sur ce schéma-là, d'ailleurs, que se base la vaccination. L'immunité adaptative, c'est celle qui intervient dans un premier lieu sans mémoire immunitaire. C'est celle qui va nous protéger de toute exposition à des agents pathogènes, de notre propre microbiote ou de choses comme ça, à un instant T directement.
Alors, vous dites dans votre article que les infections au HPV, elles sont peu immunogènes. Est-ce que ça veut dire qu'on ne fabrique pas ou peu, justement, d'anticorps anti-HPV après avoir été infecté ?
Oui, alors ça, c'est un point clé sur les infections au papillomavirus. En fait, où est-ce qu'il se loge, le papillomavirus ? Il se loge au niveau basal, c'est-à-dire assez profond dans le tissu, là où la réponse immunitaire est la plus difficile à acquérir ou à développer. Et donc, en fait, les infections papillomavirus, c'est assez fréquent qu'on ne retrouve pas de réponse immunitaire, en tout cas adaptative avec la production d'anticorps.
Et du coup, vous êtes intéressé spécifiquement à la réponse immunitaire cellulaire locale. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est précisément ?
Alors la réponse immunitaire locale, c'est la réponse immunitaire au niveau cervical, qu'on a pu analyser grâce à des prélèvements qui ont été faits au niveau par frottis essentiellement. Donc on a étudié notamment les populations cellulaires et locales. Donc là, c'est des prélèvements, des centaines de prélèvements aussi qu'on a fait, qu'on a analysé au CHU de Montpellier. Et donc là, on a utilisé ce qu'on appelle la cytométrie en flux pour pouvoir caractériser les cellules immunitaires. Alors la particularité de cet environnement, c'est que c'est un environnement où il y a peu de cellules immunitaires et elles sont assez compliquées, enfin elles sont même très très compliquées à étudier puisqu'elles sont très autofluorescentes, elles sont assez compliquées. Et donc là, on a dû avoir recours à des méthodes d'analyse qui sont de pointe, mais je pense que vous avez des questions plus précises là-dessus.
Je précise juste avant qu'on passe à la suite que quand vous parlez de niveau cervical, on parle de ce qui se passe au niveau du col de l'utérus et pas au niveau de la nuque. Ah, on a eu cette discussion.
Ma remarque hier. Voilà.
Donc, je confirme.
Vous avez concentré l'étude sur 11 populations de cellules immunitaires en utilisant des techniques de clustering non supervisées. C'est possible d'expliquer ça facilement, ce que c'est qu'un clustering non supervisé?
Pour l'expliquer, j'ai besoin d'expliquer comment on fait classiquement et pourquoi on a dû passer à autre chose, passer à quelque chose d'un peu plus compliqué, qui est le clustering non supervisé. Classiquement, quand on fait de la cytométrie en flux, on utilise des techniques où on sait déjà à quoi on s'attend et on va aller chercher précisément les populations immunitaires que l'on s'attend à trouver dans l'échantillon. Là, c'était pas possible, pour plusieurs raisons, dans cet environnement cervico-vaginal, parce qu'on connaît pas bien ces populations immunitaires et parce que c'est un environnement très compliqué. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris toutes nos cellules immunitaires et on les a mis dans une espèce de soupe algorithmique, le clustering non supervisé, qui nous a aidé à identifier en fait 11 populations immunitaires. Et on ne l'avait pas choisi, 11 populations immunitaires. C'est l'algorithme qui nous a dit, ces cellules-là ensemble, celles-là ensemble, ça, pouf. Et on en a trouvé 11. Et nous, après notre travail de scientifique et d'expert, j'ai travaillé avec Géraldine Schlafkluf d'ailleurs à ce sujet-là, c'était pour identifier ces 11 populations et leur donner un nom ou un sens immunitaire.
Alors, vous dites qu'il est difficile de les identifier, ces cellules immunitaires. Pourquoi, justement?
Eh bien, parce que, comme c'est difficile de travailler avec cet échantillon, bon, il y a aussi un point qu'on pourrait mentionner, que la santé des femmes, etc., c'était pas forcément... Voilà, il y a un petit biais à ce niveau-là. Notamment parce qu'elles sont très, très autofluorescentes, c'est des prélèvements qui sont compliqués à faire, qui sont assez invasifs, donc au niveau éthique, etc.
Coup, ouais.
Voilà, c'est la nature du prélèvement.
Et alors, du coup, vous avez voulu vérifier après tout ça si le statut vaccinal, le fait de savoir si les femmes étaient ou non vaccinées contre le papillomavirus, il avait affecté cette réponse immunitaire locale. Est-ce que ça a été le cas ou pas?
Alors oui, comment on a fait déjà, une fois qu'on a mis nos cellules immunitaires, qu'on les a passées dans notre soupe algorithmique de clustering non supervisé, là, on a pu obtenir les profils de distribution parmi ces 11 populations des cellules immunitaires de chaque participante à chaque point de visite. Et on a pu comparer donc les femmes vaccinées et non vaccinées. Dans l'étude, on a eu à peu près 50% de femmes vaccinées, 50% de femmes non vaccinées. Et on a simplement comparé les deux. Et oui, on avait nos résultats nous ont permis de montrer qu'il y avait des différences quand même dans la distribution de ces populations immunitaires.
On va venir maintenant à notre question de base. Donc, comment il disparaît donc ce papillomavirus quand on a une infection? Vous proposez du coup une sorte de scénario immunitaire où finalement les cellules immunitaires innées et adaptatives, elles interviennent pas en même temps, c'est ça? Il y en a des premières qui interviennent. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe une fois que le virus y rentre?
La phase d'entrée pourrait être le sujet de discussion très très longue, mais ça tombe bien parce que c'est pas du tout mon sujet d'expertise. Moi, ce qu'on a pu montrer à travers dans le papier avec Baptiste, c'est que en fait, on arrive à distinguer les infections virales en fonction de deux profils immunitaires. Des infections qui sont associées plus à la réponse immunitaire innée, et ce sont ces infections qui vont disparaître et qui vont être clairées assez rapidement. Et on observe un deuxième profil, des infections qui restent plus longtemps. Qui restent dans le temps, qui elles sont associées à une réponse immunitaire adaptative.
Donc en fait, il y a un premier filtre qui attaque et qui embousille une bonne partie, et puis celles qui restent finalement font de la résistance, c'est ça si
Exactement, et en fait, c'est même d'ailleurs très bien expliqué. et ce qu'on arrive, il me semble, à montrer, c'est que la réponse immunitaire adaptative n'est plus suffisante pour éliminer les infections au papillomavirus qui s'installent dans le temps.
Et d'avoir réussi à identifier justement ce schéma immunitaire que Lucie nous a bien décrit, est-ce que ça vous a permis d'entrevoir peut-être des nouvelles pistes thérapeutiques contre les infections à papillomavirus?
Alors thérapeutique, je pense que c'est trop tôt. Évidemment, des systèmes immunomodulatoires qui vont venir agir sur l'immunité pourraient être pensés dans ce contexte-là, mais je pense que notre étude n'est pas suffisante, il faudrait plus de recherches. Peut-être là où on a un peu plus de chances de percevoir les effets de notre étude, à court terme, moyen terme, c'est au niveau de biomarqueurs, au niveau du dépistage. Est-ce que ce passage de l'immunité innée à l'immunité adaptative pourrait être un indicateur de l'installation des infections de long terme et un indicateur précancéreux? Ça, c'est quelque chose dans lequel j'ai un petit peu plus de confiance et sur lequel il faudrait, à mon avis, mettre un peu plus d'efforts.
Alors justement, vous parlez de plus d'études, vous nous avez dit que vous étiez en train de monter une équipe et un des sujets potentiels, ça pourrait être de s'intéresser à l'interaction entre l'infection HPV et le cycle menstruel. Ça fait partie des pistes potentielles intéressantes.
Est-ce que ça fait partie des pistes potentielles intéressantes? Évidemment. Est-ce que c'est un sujet qui est beaucoup étudié? Non. Ça, je suis assez bien placé pour vous le dire. Quelque chose qu'on va étudier avec Samuel Elison, parce que dans PapClear, on a aussi beaucoup de données au niveau du microbiote vaginal, c'est l'interaction entre microbiote vaginal et papillomavirus. Évidemment, le microbiote vaginal est modulé par le cycle menstruel. Dans PapClear, on a quelques éléments qui nous permettent de caler le cycle menstruel des participantes, mais c'est pas une étude qui était spécifiquement pensée pour ça. Donc là où on aura des résultats plus intéressants, et qui sont à mon avis tout aussi pertinents, c'est l'interaction entre le microbiote vaginal et la stabilité des infections au papillomavirus et leur dynamique. Ça, on pourra plus jouer là-dessus, enfin étudier.
Et on continuera de suivre vos études avec plaisir. Un grand merci Nicolas Tessandier.
Ben merci, je vous remercie de m'avoir invité ici.
Et on passe maintenant à notre séquence reportage.
Oui, et pour cette première série de reportages à l'Institut de recherche pour l'enseignement des sciences, on suit Philippe Munch, il est géologue au laboratoire Géosciences Montpellier, et il nous présente une activité pédagogique autour d'un rat géant, un rongeur géant plus exactement, vous verrez que c'est pas tout à fait un rat, de près de 200 kilos qui s'est retrouvé sur une petite île des Antilles. Alors il a demandé aux élèves de se creuser les méninges pour savoir à quel type de rongeur il s'apparente et comment il avait bien pu arriver là.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56... 56.
Tout ça part d'un projet de recherche dans un laboratoire de géosciences avec des paléontologues, des géologues qui ont été étudiés effectivement l'origine d'espèces étranges et notamment un rongeur, on dira pour simplifier, mais c'est un rongeur qui pouvait peser jusqu'à 150, presque 200 kilos. Qu'on trouve dans les îles des Petites Antilles, essentiellement sur l'île de Saint-Barth, Saint-Martin et une petite île à côté qui s'appelle Anguilla. C'est un problème scientifique connu depuis très longtemps, puisque le premier à en avoir parlé, c'est Darwin, tout simplement. Et que, du coup, on fait se poser la même question que Darwin à des élèves de collège avec cette activité, pour discuter de comment un rat géant est arrivé sur une petite île des Antilles. Et on travaille sur les concepts d'évolution et les concepts de géologie associés, puisque ces petites îles ont la particularité d'être des îles volcaniques, c'est l'arc volcanique des Petites Antilles, et que dans les programmes de lycée et de collège, il y a à la fois les enseignements sur les sciences de la vie et de l'évolution, et les enseignements de sciences de la Terre, et là on parle donc de zones de subduction, des endroits où à la surface de la Terre, une plaque plonge sous une autre, et crée donc des séismes et des volcans, et des îles sur lesquelles on retrouve ces fossiles. Très exactement, c'est un jeu qui a été conçu, et il a été conçu alors dans le cadre d'un groupe donc de l'IRES, mais à la base à l'initiative d'une enseignante du secondaire. Donc Floriane Girier, qui est enseignante dans le secondaire au collège à Villeneuve-les-Avignon. En premier, elle leur présente une problématique. Et justement, elle leur parle de la recherche qui est en cours et que des scientifiques ont trouvé des fossiles d'un rat ou d'un rongeur, a priori de grande taille, puisque par exemple, on a retrouvé des incisives, donc les dents de devant, qui font 12 cm de long. Donc c'est quand même pas anodin. Et donc ce rongeur géant, elle leur pose la question, qu'est-ce qu'il fait là? Comment il est arrivé là? Et en plus aujourd'hui il a disparu, donc éventuellement on peut se poser la question de comment est-ce qu'il fait pour disparaître. Et ensuite le vrai jeu, il démarre avec ces cartes-là, où vous voyez sur la première carte, l'élève qui se retrouve dans la position du chercheur et dans le laboratoire, et il a à disposition des ouvrages ou une caisse avec des échantillons. Et donc ce sont deux autres cartes différentes et les élèves peuvent choisir ou de partir en regardant ce qui est dans le livre ou ce qui va être dans la caisse à échantillons.
Et s'ils choisissent la caisse à échantillons, alors qu'est-ce qui se passe ?
On va choisir la caisse à échantillons. Là, voilà. Donc, dans la caisse à échantillons, tu trouves un échantillon du fossile mystérieux. Et à ce moment-là, ils indiquent de prendre l'échantillon numéro 1. Et l'échantillon numéro 1, c'est lui. Et vous remarquez que cet échantillon-là...
Ce sont des dents ?
Alors, effectivement, c'est une rangée dentaires. Et donc, du coup, ils ont ce premier échantillon et on va leur demander ensuite de se poser des questions. Et la question est de savoir à quel autre type de rongeur ça ressemble. Et les autres échantillons en jaune, donc, qui ont été imprimés dans une résine jaune, ceux-là correspondent à des échantillons actuels. On a choisi un certain nombre d'espèces et on va leur demander de comparer les caractères des dents. Et effectivement, est-ce que ce sont des bulbes? Est-ce qu'il y a des lames? Est-ce que les lames sont connectées entre elles ou pas connectées entre elles? Est-ce qu'il y a un espace entre les molaires et l'incisive et ainsi de suite? Et donc du coup, avec tous ces caractères, ils vont arriver à voir avec quelle espèce actuelle le fossile partage le plus de caractères communs, donc avec qui il est cousin.
Et alors, c'est qui le cousin là, le plus proche ?
Et le cousin le plus proche du fossile mystère, c'est un chinchilla qui pèse environ 500 grammes.
Donc on est loin des 200 kilos de l'ancêtre.
Si on prend donc le fossile à l'échelle 1 et la mandibule du chinchilla actuel, on voit très bien qu'il y a comme un petit problème, puisque la rangée dentaire est plus longue que le crâne du chinchilla actuel.
Ça faisait un gros chinchilla.
Exactement, ça faisait un gros chinchilla. On ne dit pas chinchilla, on dit chinchilloïde, pour être exact. Mais bon, nous, on dit aussi rat de temps en temps, donc du coup, c'est ce qui est faux. Puisque ce n'est pas un rat, puisqu'il y a un rat brun dans les autres organismes, et on se rend compte que le fossile mystère n'est pas proche d'un rat, il est proche d'un chinchilla. Et donc, effectivement, cette espèce n'existe aujourd'hui qu'en Amérique du Sud. Et donc, le fossile, d'où vient-il ? Ben, potentiellement d'Amérique du Sud. Alors, on guide le travail, mais les élèves, on les fait travailler sur les deux hypothèses sur lesquelles travaillent les scientifiques et on les leur annonce. La première hypothèse, c'est celle d'un radeau. Donc, ces rongeurs seraient passés sur des radeaux et seraient arrivés depuis l'Amérique du Sud sur des radeaux naturels. Attention, donc des radeaux flottants naturels, des pans entiers de forêts tropicales qui se détacheraient le long des bords d'un fleuve et qui navigueraient à travers la mer des Caraïbes pour arriver jusqu'à Saint-Barth. Et l'autre hypothèse, c'est qu'effectivement, la subduction des petites Antilles, elle a une histoire complexe et que par moment, il y avait, et ça a été montré dans les projets de recherche menés à l'Université de Montpellier, des îles aujourd'hui disparues qui faisaient soit des îles très resserrées, soit un véritable pont ou isthme continental entre l'Amérique du Sud et le nord des Petites Antilles, puisque Saint-Martin dont j'ai parlé, c'est l'extrême nord des Petites Antilles, c'est-à-dire on est à peu près à 800 km de l'Amérique du Sud. Dans la vérité, les deux sont plausibles, les deux sont débattus encore actuellement. Et ça aussi, c'est important d'expliquer aux élèves qu'il n'y a pas forcément une réponse unique à une question, il y a plusieurs réponses, il y a des débats, et que ça fait partie de la recherche scientifique.
Et la semaine prochaine, on continue ce cycle de reportages, mais ce sera cette fois-ci avec les mallettes de chimie. Et j'accueille maintenant mon invité de dernière minute, Nathan Rohr, bonjour.
Bonjour.
Donc tu es chargé des relations presse à l'UM, et cette semaine, c'est une semaine qui sent bon le printemps et du coup tu nous présentes Primavera, la fête des plantes rares.
Et oui, pour cette année 2025, rendez-vous dimanche 23 mars à partir de 10h, boulevard Henri IV à Montpellier, puisqu'il s'agira de la 20e édition de Primavera. Et pour cette occasion, le Festival Montpelliérain des plantes et du printemps revient avec ses conférences et ses stands en faveur de la défense de la biodiversité, l'occasion d'en apprendre plus dans un cadre exceptionnel, celui du plus ancien jardin botanique de France.
20e édition quand même, ça passe vite. Alors comment il est né ce rendez-vous annuel ?
Alors tout débuta avec une simple question d'un stagiaire, pourquoi ne pas organiser une fête des plantes ? Un premier opus fut donc créé le dimanche 20 mars 2005, c'était un rendez-vous des initiés en petit comité. Et depuis, Primavera, chaque année, pendant une journée, est ouvert à toutes et à tous. Le festival qui rassemble pas moins en moyenne entre 6000 et 8000 visiteurs. Et cette journée sera également l'occasion de venir échanger avec des professionnels sur des stands de pépiniéristes, d'associations de défense de l'environnement, d'éditeurs de livres spécialisés, d'artistes plasticiens, d'établissements scolaires agricoles, mais aussi de plusieurs conférenciers qui vous attendront au Jardin des Plantes pour ce grand moment.
Alors pas mal de monde en effet, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les acteurs qui seront présents au Jardin des Plantes ?
Alors ce ne sera pas moins de 50 pépiniéristes venant de tout le sud de la France qui seront présents pour vous, ainsi que 12 associations de défense de l'environnement, il y aura même un éditeur spécialisé et 4 artistes. Vous aurez donc l'embarras du choix, plantes locales ou exotiques, cactées ou épiphytes, alimentaires ou tinctoriales pour le balcon, l'intérieur ou au jardin. Ne cherchez plus, c'est ce dimanche au Jardin des Plantes de Montpellier toute la journée.
Ça fait rêver. Alors, il y aura également des conférences.
Il y en aura trois, du coup. Oui, trois conférences de 45 minutes. La première à 14h, nommée « À la recherche de l'agriculture et des forêts du passé », une enquête archéobotanique par Jérôme Ross, chargé de recherche au CNRS à l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier, l'ISEM. Une seconde à 15h, nommée « Face à l'aridité, la puissance de l'arbre », des inspirations marocaines et paysannes pour l'agroforesterie par Geneviève Michon, ethnobotaniste, directrice de recherche émérite à l'IRD. Et enfin, une dernière conférence à 16h, Boissier de Sauvage et Liné, une amitié de 30 ans par Thierry Lavabre-Bertrand, le directeur émérite du Jardin des Plantes. Et je rajoute que toutes les informations et le programme sont à retrouver sur la page internet de l'Université de Montpellier. Quant à moi, je vous dis à dimanche pour Primavera, de 10h à 18h, au Jardin des Plantes, je le rappelle.
Merci beaucoup Nathan.
Merci à vous.
Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Robin Layou pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la science. La science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ses mots.
Allume la science.